Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Madame, messieurs, merci de choisir la fréquence de la paix pour vous informer. Au sommaire, le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux initie les réformes judiciaires pour la protection du patrimoine de l'État. Selon lui, cela en vue de promouvoir la gestion rationnelle des biens et entreprises de l'État. Le calme revient graduellement dans les camps des déplacés après les affrontements hier entre les FRDC et les Wazalendo FDLR à Roussayou, au Nord Kivu. Les familles commencent à rentrer dans leurs abris, même si la situation n'est pas encore rassurante. La haut-commissaire assistante en charge de la protection du Haut-Commissariat de l'ONU pour les réfugiés a visité 3 sites de déplacés en Ituri. Elle revient sur l'intervention du HCR dans les tout prochains jours pour soulager leurs souffrances. Bonjour à toutes et à tous. Débat hier jeudi à Kinshasa sur la sécurisation des biens des entreprises, établissements et services publics. Les participants ont échangé sur les réformes portant justement sur la problématique de la protection du patrimoine de l'État. À terme, ces réformes initiées par le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, Constant Mutamba, devraient permettre de mettre fin à la saisie intempestive de biens et à la spoliation des concessions des entreprises et des établissements publics. Reportage réalisé par John Tibouaboua, Biliv Fataki et Emmanuela Baleka.
Grâce à ces réformes, le bien des entreprises et établissements publics ne seront plus saisis ou spoliés. Jean-Lucien Boussa, ministre du portefeuille, parle de l'importance de ces réformes.
L'occasion nous est donnée pour que le climat d'affaires dit de ces noms soit observé aussi pour les entreprises du portefeuille. Et les décisions qui ont été prises à travers ces décrets sont d'une importance économique et sociale telle que nous devons simplement nous ranger, travailler pour que ces décrets puissent être exécutés.
Pour sa part, Constant Mutamba promet des sanctions sévères à toute personne qui s'opposerait à cette mesure.
Le deuxième conseil du ministre, le chef de l'État, magistrat suprême, après avoir reçu plusieurs doléances et après présentation d'une note d'information de son excellence de surveillance du portefeuille, les instructions étaient donc dictées de manière ferme au ministre d'État, ministre de la Justice, pour pouvoir réformer, trouver des solutions structurelles à ce problème qui jonchait notre système judiciaire. L'innovation majeure, c'est l'intégration de l'insaisissabilité des biens des entreprises publiques, services et établissements publics. Tout celui qui va oser encore à bypasser cette réforme sera arrêté.
Parmi ces réformes figure notamment la bancarisation des frais judiciaires.
Dans la province du Haut-Katanga, les groupes thématiques gouvernance et sécurité de la société civile alertent. L'insécurité prend de plus en plus de l'ampleur à Lubumbashi, notamment dans certains quartiers de la commune annexe. Des cas de meurtres, des viols et des vols y sont régulièrement enregistrés. Et les crépitements de balles y sont entendus presque chaque nuit. Pour cela, le responsable de ces groupes thématiques demande à la police de se déployer dans ces quartiers pour sécuriser la population qui est sans moyen de défense face aux bandits armés. On écoute Bertin Chose au micro de Jean Gandou.
Les personnes en armes et en uniforme sont en train de tracasser. Nous avons les quartiers Golf Maïcha, les quartiers M5C, nous avons les quartiers Kamatete où il y a eu beaucoup de cas de vols armés couplés de viols. Depuis le mois de juillet, plus ou moins 15 cas de femmes violées, 10 cas des hommes torturés, 3 personnes tuées. À cela s'ajoutent de blessés graves. Actuellement, nous crions, nous demandons aux autorités. Je sais que la couverture, elle n'est pas totale suite au nombre de policiers qui sont dans la ville de Lubumbashi. Le nombre de charrois automobiles, n'en parlons même pas. Donc, il y a un déficit au niveau logistique, au niveau humain, pour que nous puissions faire face à cette insécurité qui gangrène la ville de Lubumbashi. Et la partie Kamatete, la population a pu attraper 2 personnes armées en tenue. Ce dossier est en train d'être suivi au niveau de l'auditorat militaire.
À ce sujet, nous n'avons pas eu la réaction de la police. Au Nord Kivu, la situation s'est rétablie progressivement dans les camps de déplacés touchés par les affrontements d'hier entre les FRDC et les Wazalendo et les FDLR à Rusayu, proche de Mugunga. Les familles qui ont fui hier commencent à rentrer dans leurs abris, même si la situation n'est pas encore rassurante. Certains sites de déplacés sont côte à côte avec une position des Wazalendo, notamment les sites de Samsam, Chabindou. C'est ce qui occasionne le nombre élevé des blessés et pertes en vie humaine parmi les déplacés. Ces familles craignent toujours une nouvelle attaque contre cette position, affirme l'un des responsables des sites. Les déplacés se disent confus par ces affrontements et demandent de rentrer chez eux, témoignage de certains que nous avons joints ce matin.
Nous avons entendu beaucoup de tirs depuis avant-hier. On nous dit que ce sont les FRDC, les Wazalendo et les FDLR qui se battaient. Alors, on se pose la question. Nous, on pensait que les seuls ennemis étaient les M23. Que le gouvernement nous aide à terminer cette guerre pour que la population ne périsse pas. Maintenant, il y a beaucoup de déplacés qui sont obligés de partir encore. Ce que nous pouvons demander, c'est qu'on nous ramène la sécurité pour que nous puissions regagner nos villages.
Restons au Nord Kivu, où les HCR rassurent toutes les personnes déplacées internes et réfugiées de son soutien et son implication dans la recherche des solutions durables pour elles. C'est entre autres messages adressés jeudi à Goma par la haut-commissaire assistante du HCR aux milliers de déplacés et réfugiés qui se trouvent au Nord Kivu. Ruvandrini Meni Diwela, haut-commissaire assistante en charge des protections, dit être venue s'enquérir des conditions des vies de ces personnes, échanger avec elles, mais aussi avec les autorités pour comprendre la situation. Elle s'est exprimée à la sortie de l'audience avec les gouverneurs, le général-major Sirimwa Minkuba Peter. Suivez.
L'objet de ma visite, c'était vraiment pour constater pour moi-même la situation des déplacés internes et des réfugiés qui sont hébergés dans cette province. Donc, vraiment pour leur parler, de connaître un peu la situation, mais aussi surtout d'avoir une discussion avec les autorités provinciales, notamment avec son Excellence, le gouverneur, pour comprendre un petit peu les préoccupations et sur le plan de sécurité et sur le plan humanitaire. Son Excellence nous a briefé, mais vraiment de façon très détaillée, sur les besoins humanitaires des personnes déplacées ici, dans cette province. Plus de 3 millions de déplacés internes et bien sûr plus de 200 000 réfugiés burundais et rwandais aussi qui sont hébergés ici dans cette province depuis presque 3 décennies déjà. Essayer de trouver des solutions durables pour les deux populations, surtout pour certains des réfugiés rwandais qui ont exprimé leur volonté de rentrer chez eux. On est là pour faciliter cette solution pour eux, leur rapatriement. Pour les déplacés internes, Son Excellence, je sais, œuvre dans ce sens des solutions durables. Je lui avais rassuré de notre soutien dans cette poursuite des solutions.
La haut-commissaire a rendu visite ce vendredi matin au camp des déplacés de Bushagara près de Kanyaruchinya, alors qu'hier, il était au camp des Rusayu côté Mugunga. Direction la province du Sud Kivu. Le gouvernement provincial a réceptionné ce 25 septembre le bâtiment du poste frontalier à l'arrêt unique de Ruzizi 2. C'était au cours d'une visite d'inspection et des réceptions techniques organisée par Trademark Africa et l'Organisation internationale pour les migrations OIM au poste frontalier Ruzizi 2 à Bukavu. Un projet financé par l'Union européenne à hauteur de 22 millions de dollars américains et exécuté par Trademark Africa. Rachel Kiesembangu nous en dit plus.
Les travaux de modernisation du poste frontalier à arrêt unique Ruzizi 2 comprend un bâtiment administratif avec 3 niveaux, le bloc de guichet et d'immigration, la cabine de scannage, la guérite d'entrée, pavage de la chaussée et de la route en béton armé. À l'issue de l'évaluation technique des travaux, il a été conclu que les travaux sont recevables dans un délai d'un mois. Trademark Africa et l'OIM sont appelés à mobiliser les moyens pour réaliser les travaux additionnels proposés pour permettre le fonctionnement harmonieux de la frontière. Satisfaction pour le ministre des Infrastructures, Georges Kibonge, qui n'a pas hésité de remercier les parties prenantes au projet. Il souhaite voir également Trademark poursuivre les travaux additionnels avant l'inauguration et la deuxième phase. Au terme de l'inspection, une cérémonie de remise provisoire du bâtiment s'est tenue à l'hôtel Panorama en présence des agents des services frontaliers. L'ouverture officielle au trafic est prévue dans un mois, marquant ainsi une étape importante dans les développements socio-économiques de la sous-région. Rappelons que ce projet de l'Union européenne vise à renforcer la sécurité aux frontières et de promouvoir le commerce de la sous-région. Bukavu, Rachel Kessé, Radio Okapi.
Santé, la lutte contre l'épidémie des Mpox est bien engagée à l'aéroport international d'Ndjili. Le programme national de l'hygiène aux frontières, PNHF, a mis en place des dispositifs nécessaires pour renforcer les contrôles sanitaires. Les passagers à l'arrivée, tout comme au départ du voyage, sont obligés de passer devant des caméras thermographiques pour le prélèvement de leur température. Un dispositif qui n'a pas encore jusque-là permis de détecter un malade des Mpox. Des détails avec Askin Zigbia Tayoro.
C'est depuis plus d'un mois que 5 caméras thermographiques ont été installées à l'aéroport d'Ndjili. Toutes ces caméras sont placées dans des positions stratégiques pour contrôler l'arrivée et le départ des passagers du côté international et national. Ce qui permet de prélever les températures des passagers. D'après le docteur Tati Kode, le chef de poste du programme national de l'hygiène aux frontières, une partie de ces dispositifs consiste à l'observation visuelle des passagers pour rechercher des signes évocateurs de Mpox, tels que l'irruption cutanée, asthénie physique. Autre dispositif, c'est la pratique de gestes barrières, l'usage de gels hydroalcooliques pour permettre aux passagers de se désinfecter les mains. À cela s'ajoute le port de masques et le respect des distanciations physiques. Tous ces dispositifs ont permis de remonter 2 cas de passagers qui ont présenté des signes évocateurs de Mpox. Mais les analyses de prélèvement de ces 2 cas ont donné des résultats négatifs, affirme Dr. Tati Kode. Ce médecin affirme que le système de contrôle sanitaire à l'aéroport d'Ndjili fonctionne 24 heures sur 24.
La province du Kwilu a un taux faible de prévalence de la contraception moderne, soit 3% selon les résultats de l'enquête MIX 2018 et 11% en 2023, alors que la norme nationale est de 20%. C'est le docteur Jean-Claude Mudjandambou, chef du programme national de la santé des reproductions, qui l'a déclaré à l'occasion de la célébration de la 17e journée mondiale des contraceptions, jeudi 26 septembre 2024 à Bandunduville. Cérémonie organisée par la Division provinciale de la santé à travers les 10 programmes. À l'occasion, les femmes et les hommes ont été sensibilisés sur l'utilisation de méthodes de la planification familiale pour éviter certains risques. Irène Mbomaluzolo.
C'est au camp des déplacés de Kwamut, situé au quartier Malebo, que la journée mondiale de la contraception a été célébrée jeudi à Bandunduville. Plusieurs personnes déplacées, mais aussi d'autres habitants du coin, ont pris part à cette cérémonie. Le docteur Jean-Claude Mudjandambou est le chef du programme national de la santé des reproductions, Penser Kwilu.
C'est pour aider la communauté, la population, surtout les jeunes filles et les femmes, de pouvoir utiliser les méthodes contraceptives, parce qu'au fur et à mesure que la matrice est trop sollicitée, ça devient très faible. Et ensuite, les décès maternels peuvent survenir. On veut de la planification familiale pour essayer un peu de se passer une naissance dans la famille. Si on a choisi Malebo, c'est parce que nous avons le déplacé, qui la vie sexuelle aussi est importante et que nous devons les aider à s'organiser.
Notez que pendant 3 jours, les différentes méthodes de planification familiale, dont les oraux, les injectables, les implants et autres, seront offertes gratuitement aux femmes au niveau des centre de santé de la place dans le cadre de cette journée. Cela avec l'appui financier des partenaires tels que les groupements sans rue Pathfinder. Irène Mboma, Bandunduville, Radio Okapi.
Dans la ville de Beni, au Nord Kivu, une quarantaine de femmes et des hommes ont été également sensibilisés ce jeudi aux différentes méthodes de contraception en vue d'un bon planning familial. C'est la Société congolaise de la pratique sage-femme, section de Beni, qui a organisé cette activité en collaboration avec la police nationale congolaise, la division provinciale de la santé et les fonds des Nations unies pour la population UNFPA. Objectif, atteindre 0 décès maternel à travers une bonne planification familiale. Les points avec Guylaine Kassassia.
La sous-information est à la base de plusieurs cas de décès maternels dans la communauté, mais aussi des complications de santé chez certaines femmes qui utilisent mal les méthodes contraceptives. C'est ce qu'explique Kétia Wani, l'une des sages-femmes organisatrices de cette activité.
Nous avons constaté que les femmes n'étaient pas vraiment informées par rapport à la planification familiale et ceux qui étaient informés étaient orientés dans des mauvais endroits. Donc nous leur avons conseillé, avant de choisir une méthode de planification familiale, de voir un personnel de santé qui est qualifié.
Pour sa part, par Sylvie Kakimoa, l'une des participantes. Le planning familial est indispensable dans la société moderne. Cependant, les femmes ne doivent pas se fier aux informations de la rue pour se faire.
Il ne faut pas écouter ça dans la rue parce qu'on nous a enseigné ici qu'il y a aussi des risques. Alors pour éviter ces risques, il faut conduire l'autre dans les structures sanitaires.
Pour un bon planning familial, la vie de l'homme dans un foyer compte. Cet autre participant exprime son engagement pour y parvenir.
La vie est devenue très chère si nous nous permettons de donner naissance à bien prendre nos responsabilités à main. Après cette sensibilisation, désormais je dois bien contrôler mes rapports sexuels avec mon épouse.
Beni Gulen Kassassia, Radio Kapi.
Actualité internationale.
Jeudi, près du palais présidentiel à Conakry, en Guinée, des coups de feu ont été tirés. Suite à ces drames, l'armée a brièvement bouclé le centre-ville et a évacué la population. Un responsable diplomatique proche du dirigeant guinéen a déclaré à l'agence presse que 11 soldats avaient ouvert le feu sur les forces spéciales autour du palais, mais les militaires ont été vite maîtrisés. Toutes les rues menant vers le palais présidentiel ont été fermées à la circulation automobile et piétonne. Par la suite, des embouteillages se sont créés. 3 des assaillants ont été tués et 8 autres arrêtés, a-t-il déclaré, ajoutant que la situation était sous contrôle. Le bouclage du centre de Conakry a été levé par la suite.
L'invité.
Tere, Telega et Mbala sont les 3 sites visités mardi et mercredi par la haut-commissaire assistante en charge de la protection du haut-commissariat de l'ONU pour les réfugiés en séjour de travail à Bounia depuis mardi. Sur place, elle a échangé avec le représentant de ces personnes qui lui ont expliqué leurs conditions de vie. Que comptent faire les HCR pour soulager leurs souffrances? Rouvandrini Meni Diwela répond aux questions de Jean-Claude Lokidile.
Madame Rovendrini Menikadiwela, bonjour.
Bonjour.
Vous arrivez en Ituri, c'est votre première visite, vous n'avez cessé de le rappeler. Vos premières impressions, parce que vous avez été hier au site de Tere, vous avez visité aujourd'hui Telega, Imbala, voilà, à chaud, quelles sont vos impressions?
Bon, il y a cette chose que auxquelles je m'attendais, bien sûr, et les personnes déplacées avec qui on a parlé hier soir, mais aussi aujourd'hui, ont expliqué quand même leurs préoccupations en ce qui concerne l'accès à certains des services publics, comme l'éducation pour les enfants, la santé, les soins médicaux, etc. Mais ce qui m'a vraiment frappé le plus, c'était aussi le message de l'espoir des personnes, un certain nombre de personnes qui ont quand même pu trouver une solution durable à la situation. Donc, ils ont pu avoir une maison permanente, une parcelle de terre pour cultiver, et ça, par le biais des autorités provinciales ici, vraiment des initiatives menées par le gouverneur lui-même et aussi par le vice-gouverneur qui m'accompagne dans ses visites au site. Donc, c'est vraiment un message mixé. Vous voulez. Certainement des messages que la communauté internationale humanitaire devrait faire un peu plus pour améliorer l'accès aux besoins ou des services publics pour les personnes déplacées, mais aussi un message de l'espoir qu'il y a quand même des solutions à la portée de ces personnes. Et qu'il y en a beaucoup qui ont pu avoir recours à ces solutions.
Justement, vous occupez une grande responsabilité au sein du ACR en termes de protection. Maintenant, qu'est-ce que vous comptez faire? Quel plaidoyer comptez-vous mener à votre retour à Genève par rapport à ce que vous avez dit? C'est que les déplacements que vous avez dit par rapport à la prise en charge alimentaire, médicale, l'éducation, bref, qu'est-ce que vous comptez faire après votre retour donc, de l'Ituri?
Enfin, je vais faire le plaidoyer de continuer, bien sûr, et là, il n'y a pas question qu'on arrête, continuer nos efforts pour soutenir le gouvernement et le gouvernement central, mais aussi les gouvernements provinciaux, pour subvenir aux besoins, la protection de ces personnes déplacées à l'intérieur du pays, mais aussi les réfugiés, parce qu'il y a quand même un certain nombre de réfugiés qui sont hébergés avec une grande générosité par les autorités de la RDC, pour subvenir à leurs besoins, donc tout aussi bien sur le plan de protection, sur le plan de l'assistance, mais surtout et de façon très importante sur le plan des solutions durables pour ces deux populations.
À court terme, à long terme, à moyen terme, qu'est-ce que le ACR compte faire justement pour venir soulager la souffrance de ces personnes qui continuent encore à souffrir sous ces tentes dans les abris solidaires d'ailleurs abîmés là?
Non, tout à fait. On le fait déjà actuellement, mais on va continuer et renforcer nos efforts de pouvoir améliorer les services services qui sont accessibles à ces gens, mais avec nos partenaires, parce que c'est pas un travail que fait l'ARCHER tout seul, c'est vraiment un travail qui est fait en collectivité avec les autres agences des Nations Unies et avec les partenaires des non-gouvernementaux aussi. Donc c'est vraiment continuer nos efforts, de ne pas vraiment faillir aux besoins des gens ici, mais aussi de se focaliser quand même sur les solutions, parce que maintenant, ce que j'ai constaté pour moi-même, c'est que les solutions sont à la portée d'un certain nombre, un nombre assez important de personnes déplacées.
Puisque j'aimerais vous parler des solutions durables, vous venez de visiter certains projets. Vos impressions, justement, après avoir visité tous ces projets?
C'est vraiment un message d'espoir, parce que j'ai parlé avec certaines familles, des familles avec des enfants de bas âge, un homme qui est veuf, qui a plusieurs enfants à sa charge, et j'ai aussi parlé avec un homme d'un certain âge, et c'est vraiment un message d'espoir. Ils sont contents parce qu'ils ont pu avoir leur maison à eux maintenant, et ils voient leur avenir de façon beaucoup plus positive. Donc, voilà.
Et vous venez à Ituri, la première fois, comment vous trouvez cette province quand vous lisez ce qui se passe sur les médias sociaux, à la radio?
Il y a vraiment un décalage entre ce qu'on voit dans les médias et ce qu'on voit ici actuellement.
C'est bon. Du coup, hein, donc.
Donc pour moi, je m'attendais franchement à entrer dans une zone de guerre, mais en fait c'est pas du tout ça. Je vois ici à Bounia, ici dans les sites, c'est vraiment de la paix, de la tranquillité, des communautés qui habitent ensemble, qui œuvrent ensemble pour trouver une solution pour leur situation. Je sais que bien sûr qu'il y a des zones de conflit qui existent, mais dans cette province, mais ce que je vois ici, c'est quand même un message de l'espoir.
Vous avez raconté le gouverneur de l'Ituri, qu'est-ce qu'il vous a dit?
Ben, je crois qu'il a partagé le même message avec moi. Il est préoccupé par les questions de sécurité, mais il est tout aussi bien préoccupé par le besoin de trouver des solutions pour les personnes déplacées à l'intérieur de la province.
Je vous dis merci.
Merci.
Et c'est la fin de cette session des nouvelles sur Radio Okapi, mise en onde par Alain Goy. Jacques-Yves Molima l'a préparée pour vous et Patience Ngalula Mbombo vous l'a présentée. Merci à vous tous de l'avoir écoutée.